Bonsoir. La Tunisie se déchire et s'enfonce dans la crise. Le président gèle les pouvoirs du Parlement. Ses partisans font face à ceux du parti Ennahda. Des affrontements ont eu lieu toute la journée. Nous sommes à Tunis dès le début de ce journal. Les inondations en Allemagne et en Belgique, la bulle de chaleur au Canada. On pourrait passer un journal entier à citer les catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique qui se succèdent cet été. Les scientifiques du GIEC ont commencé à dévoiler leur nouveau rapport. Sans surprise, il est alarmiste. Dans cette édition, nous revenons sur l'une des grandes incompréhensions de l'extension du pass sanitaire en France. Suspendre un salarié qui ne veut pas se vacciner plutôt que le licencier. Et au téléphone sonne ce soir. Bonsoir Marion Lourd.
Bonsoir.
Il sera question du Covid long.
Face à la quatrième vague, on ne craint pas seulement l'engorgement des hôpitaux. Il y a aussi le Covid long, forme durable de la maladie. Ses douleurs, sa fatigue. 10 à 15% des rescapés de la Covid seraient concernés. Quelles conséquences? Quelle prise en charge et que dit la recherche? Vos questions et témoignages, 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter.
À tout à l'heure, dans un quart d'heure. À la fin de ce journal, deux médailles françaises féminines au JO de Tokyo aujourd'hui, en judo et en escrime. Et le programme Glamour de la Mostra de Venise, Almodovar en ouverture du festival.
France Inter.
La jeune démocratie tunisienne est-elle en train de vivre un coup d'État? Le terme est employé par le parti islamiste Ennahda, majoritaire à l'Assemblée, qui n'a plus le droit de mettre les pieds au Parlement. Le président Kais Saied a en effet gelé les travaux parlementaires pour 30 jours et concentre désormais tous les pouvoirs exécutifs après avoir limogé le chef du gouvernement. Les partisans d'Ennahda tentent depuis ce matin de se rassembler devant le Parlement, mais font face à un important dispositif de sécurité. Des affrontements ont eu lieu avec les soutiens du président. À Tunis, le reportage de Lilia Blaise.
Devant le palais du Bardo, deux camps s'opposent depuis ce matin sous un soleil de plomb. Entre les barrages de police, d'un côté ceux qui soutiennent Rached Ranouchi, le leader du parti islamiste, et le président du Parlement. Comme Samia qui a trouvé une place à l'ombre.
C'est une atteinte à la légitimité de nos institutions. Je suis certaine que tous les partis politiques et toutes les organisations nationales vont se lever et prendre la bonne décision pour sauver la révolution et ses acquis.
De l'autre côté des barrières, les pro-Kais Saied, ou ceux qui soutiennent en tout cas le changement annoncé la veille par la présidence, Nourdine utilise une métaphore avec dans ses mains un oignon et une fleur pour expliquer ce qui s'est passé.
Hier, nous avons remplacé l'oignon qui pourrissait par une fleur. Nous saluons ce qu'a fait Kais Saied et ceux qui soutiennent Ennahda et qui disent que Kais Saied a fait un coup d'État. Et alors ?
Samir, lui, brandit une pancarte avec écrit « Game over ».
Je suis ici aujourd'hui pour la Tunisie. C'est un moment crucial pour nous de nous débarrasser et de balayer ce qui reste des vendus aux frères musulmans et au terrorisme. Ces gens-là sont la définition de la destruction. Ils nous ont détruits.
Les manifestants étaient encore devant le Parlement cet après-midi. Après quelques échauffourées entre les deux camps, le calme est revenu.
Le président tunisien a donc envoyé l'armée pour bloquer l'accès au Parlement et au ministère. Ce recours aux militaires pose question. La Tunisie est certes traversée par une grave crise sanitaire, mais y a-t-il un danger imminent qui justifie la mobilisation de l'armée? Élément de réponse avec Slaheddine Jourchi, politologue et journaliste en Tunisie.
L'armée tunisienne est connue par son indépendance. Elle ne s'occupe pas de la politique. Depuis l'arrivée de Monsieur le Président Kais Saied, on a constaté que le Président essaie d'être très proche de l'armée et tout d'un coup, c'est le Président qui a demandé que l'armée joue un rôle parce que l'État et le pays est en danger. Jusqu'à maintenant, l'armée elle n'est pas engagée complètement dans les affaires politiques. Je n'utilise pas le mot « complot militaire ». Ce n'est pas eux qu'ils ont choisi de s'engager dans ce changement-là brutal. Faire participer l'armée tunisienne dans un clivage politique très délicat, c'est une faute.
Propos recueillis par Juliette Pierron. La crise constitutionnelle en Tunisie, c'est à lire sur franceinter.fr. Peut-être la sortie de l'impasse. En revanche, au Liban, l'ancien Premier ministre Najib Mikati est chargé de former un nouveau gouvernement, là où ses deux prédécesseurs ont échoué. Un an après l'explosion au port de Beyrouth, le pays traverse la pire crise économique et politique de son histoire. Alors que l'été est rythmé par des catastrophes naturelles partout dans le monde, inondations meurtrières, canicules, incendies géants, le GIEC s'apprête à rendre un rapport crucial sur les effets du changement climatique. Les scientifiques des Nations Unies sont réunis pendant 15 jours à distance avec les représentants de 195 pays. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
En ouverture ce matin, la responsable climat de l'ONU a tenu un discours particulièrement clair et alarmant.
Oui, ce rapport du GIEC contient les dernières prévisions des experts climat des Nations Unies. Ils ont passé en revue des milliers d'études. C'est la mise à jour la plus complète et récente des données scientifiques sur le réchauffement climatique. Avant d'être publié le 9 août, un résumé du rapport du GIEC destiné aux décideurs politiques doit être discuté ligne par ligne et approuvé à huis clos pendant 2 semaines. Ce midi, lors de la cérémonie d'ouverture des travaux, la responsable climat des Nations Unies, Patricia Espinoza, a donné le ton. Il est sans surprise, comme vous le disiez, alarmiste.
Je dis ceci aux décideurs. La science, ce n'est pas de voir le monde tel qu'on voudrait qu'il soit, mais tel qu'il est vraiment. Ce n'est pas de la politique, c'est de la réalité. Et la réalité est que nous ne sommes pas en bonne voie pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris, de limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. En fait, nous sommes sur le chemin opposé, nous nous dirigeons vers plus de 3 degrés.
Alors ce rapport du GIEC agira-t-il comme un électrochoc pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique ? Réponse en novembre prochain, lors du grand sommet climat des Nations Unies, la COP26 en Écosse.
Sandy Dauphin, spécialiste environnement de France Inter. Illustration concrète sur le terrain. 4 Canadairs français et grecs ont décollé aujourd'hui pour aller aider l'Italie à combattre le feu qui ravage l'ouest de la Sardaigne. Plus de 20 000 hectares de forêt et d'oliveraies sont déjà partis en fumée. Les flammes sont attisées par un sirocco brûlant.
France Inter. Cécile Bideau.
Un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra dans 15 jours, le 11 août, car même si le cap des 40 millions de premières injections contre le Covid-19 a été franchi aujourd'hui en France, l'épidémie ne marque pas le pas. Le port du masque en extérieur est redevenu obligatoire dans 21 départements sur tout ou partie de leur territoire. En Haute-Corse, deuxième département le plus touché de France en cette période estivale, ce n'est pas le retour du couvre-feu, mais cela y ressemble. Bars et restaurants devront fermer à minuit à partir de dimanche. Des rassemblements de plus de 10 personnes sur les plages après 21h sont interdites dès demain. Autre levier sur lequel le gouvernement va s'appuyer dans les semaines qui viennent pour lutter contre l'épidémie, le pass sanitaire. Son extension a été votée définitivement la nuit dernière et c'est désormais le Conseil constitutionnel qui planche sur le texte. Saisi par le Premier ministre lui-même, il dira dans 10 jours, le 5 août, si la loi est conforme et peut être promulguée en l'état. Députés et sénateurs ont discuté pendant 60 heures sur ce projet et le gouvernement a dû faire un certain nombre de concessions. La plus importante concerne l'obligation vaccinale. Les salariés qui y sont soumis, comme les personnels des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD ou encore les pompiers, ne pourront finalement pas être licenciés s'ils refusent de se faire vacciner. À la place, ils risquent une suspension de leur contrat et donc de leur salaire. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est une solution qui fait l'unanimité contre elle.
Oui, une solution temporaire, souligne le gouvernement, car à défaut de licenciement, ce contrat de travail suspendu sera bien suspendu, mais sans aucune compensation salariale prévue à ce stade. Cette absence de compensation financière et donc pointé du doigt, les parlementaires ont estimé qu'une suspension était moins contraignante qu'un licenciement, à condition de pouvoir poser des congés, des RTT ou d'aménager le poste de travail. Tenir 2 mois dans ces conditions est certes mieux qu'un licenciement sec, mais cela reste un sérieux pari sur l'avenir qui ne règle pas la situation des salariés, souligne à Force Ouvrière Yves Verrier.
Moi, je le prends comme un signal que l'on a compris que ça n'était pas par la sanction que l'on serait efficace du point de vue de la nécessité de se vacciner et le plus rapidement, que ce ne soit pas pris comme une sanction. Maintenant, la suspension du contrat de travail et de la rémunération, je pense qu'on est là dans un compromis qui génère ou crée une situation un peu bancale qu'il va falloir résoudre.
L'extension du pass sanitaire pourrait également devenir un casse-tête dans son application. Les aménagements de poste pour éloigner un salarié de l'accueil du public ne seront possibles que dans les grandes entreprises, inapplicables dans la restauration, insiste de son côté Didier Chenet du syndicat des restaurateurs indépendants.
Si on nous dit aménager les postes, ça laisserait entendre que dans une partie du restaurant, il y aurait donc cette partie qui ne serait pas soumise au contrôle du pass sanitaire. Alors, dans les plus grandes entreprises, peut-être que l'on pourrait imaginer un poste dans un service administratif, peut-être. Mais dans les petites entreprises, c'est totalement impossible.
Les partenaires sociaux seront donc consultés sur ce dossier dans les jours qui viennent.
Et sur notre site internet, vous retrouvez toutes les modalités de ce pass sanitaire. Le Conseil d'État vient de valider, quant à lui, son utilisation dans les lieux de culture et de loisirs accueillant au moins 50 personnes. Parmi ces lieux donc où le pass sanitaire s'applique déjà, il y a les parcs d'attractions. Près de Metz, le directeur du parc Walligator a été agressé hier par un visiteur dont le pass n'était pas valide. Laurent Muller raconte.
Monsieur a commencé à crier que c'était inadmissible, que je devais le laisser passer. Je lui ai dit qu'on ne faisait malheureusement qu'appliquer un arrêté préfectoral. Là, il m'a insulté avec une insulte que personne ne pourrait accepter. Alors que j'allais lui proposer de passer un test dans le centre de dépistage qui est à disposition sur le parking. J'ai dit, monsieur, vous ne pourrez pas rentrer dans le parc. Il m'a saisi à la gorge, il m'a projeté au sol. Ça va mieux, il y a des douleurs et des ecchymoses qui sont là. Et je suis rassuré, il n'y a pas de fracture, mais il y a des douleurs qui sont là et qui vont encore perdurer. Donc je suis sous traitement et c'est vraiment pas grand-chose par rapport au message que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas notre boulot. On s'y prête parce qu'on veut aussi endiguer cette pandémie. On se doit d'être les boucliers de notre équipe, mais on ne devrait pas l'être.
Le directeur du parc Walligator, joint par Antoine Geoffin de France Bleu Lorraine. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rend au commissariat de Créteil ce soir après l'agression de 3 policiers dans le Val-de-Marne hier. L'équipage intervenait pour faire cesser un rodéo à moto quand il a été visé par un tir de mortier d'artifice. L'engin a pénétré dans la voiture. L'un des policiers est brûlé au dos. 2 autres ont été blessés par la déflagration. Le compteur des médailles françaises aux Jeux Olympiques de Tokyo est à 5 ce soir, avec 2 nouvelles médaillées EES aujourd'hui. En judo, Sarah Léonie Cizik accroche de l'argent à son cou. Elle n'est pas en chocolat et pourtant cette médaille est amère puisqu'elle a été disqualifiée en finale pour jeu dangereux. Une décision de l'arbitre qu'elle estime un peu injuste. En escrime, Manon Brunet remporte le bronze au sabre. Une victoire sur elle-même et sur les précédents JO. Envoyé spécial de France Inter à Tokyo. Xavier Monferrand.
Au Brésil, Manon Brunet avait regardé ses adversaires monter sur le podium. La Française, elle, était restée au pied. La 4e place, la pire. Alors quand le fantôme a ressurgi à Tokyo, 5 ans plus tard, après une nouvelle défaite en demi-finale, il a fallu se remobiliser et pour cela, la sabreuse a dû d'abord évacuer.
Moi j'ai d'abord pleuré, j'ai beaucoup pleuré, j'ai fait beaucoup de câlins. J'ai eu 10 minutes pour mon copain au téléphone et après j'ai dit à mon coach, faut qu'on se réchauffe. Enfin, il m'a beaucoup parlé d'abord et je lui ai dit, on peut pas se réchauffer, non, faut attendre, c'est pas encore l'heure. Ah, je voulais que ça s'enchaîne, ce qu'il fallait que ça passe. Parce que j'ai mal de partout. Sur la piste, j'avais pas mal, forcément, mais j'ai mal. Ça faisait 5 ans que je disais n'importe quelle médaille, je la veux. Là, je sais que j'ai foiré toute seule ma demi-finale, donc forcément, je suis déçue de pas être allée jusqu'en finale, mais j'ai eu la médaille de bronze. Je me suis remobilisée et je suis allée la chercher.
À peine la 15e touche victorieuse validée, Manon Brunet a disparu dans les bras de ses copines de l'équipe de France de sabre montées sur la piste, car ce n'est qu'un début. Samedi, les Françaises viseront l'or olympique, elles qui ont déjà été sacrées ensemble il y a 3 ans, championnes du monde. Tokyo, Xavier Monferrand, France Inter.
L'autre belle histoire du jour, c'est celle d'une autre sabreuse argentine. Après son élimination et alors qu'elle répondait à une interview en direct à la télé, son entraîneur a surgi derrière elle avec une pancarte lui demandant si elle souhaitait l'épouser. Elle lui est tombée dans les bras. A priori, ça veut dire oui. Alors que le générique de fin a résonné à Cannes, les amoureux du cinéma ont déjà droit à la bande-annonce de la Mostra de Venise. Les organisateurs viennent de dévoiler le programme de la 78e édition qui débute dans un peu plus d'un mois en Italie. 21 films sont en compétition. Bonsoir Cyril Ardo.
Bonsoir Cécile, bonsoir à tous.
C'est une programmation 5 étoiles qui attend les festivaliers.
Oui, et avec en ouverture le réalisateur espagnol le plus connu. J'ai cité Pedro Almodovar, 2 ans après son Lion d'Or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Il revient avec Madres Paralelas, les mères parallèles pour ceux qui ont loupé les cours d'espagnol LV2. Film avec notamment Penélope Cruz, autre grand nom du cinéma, la néo-zélandaise Jane Campion, première femme à avoir décroché une palme d'or à Cannes pour La leçon de piano. C'était en 1993, son dernier film lui remonte à 2009. La voilà de retour avec le long métrage pour Netflix intitulé Le pouvoir du chien. 2009, c'est aussi la dernière fois que l'on avait vu Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon ensemble dans un film, couple mythique du cinéma français, aujourd'hui séparés mais restés très complices. Ils sont réunis par Stéphane Brisé qui signe Un autre monde. C'est l'un des 3 films français en lice cette année à Venise, aux côtés de Xavier Giannoli et Audrey Diwan. Et puis enfin, un mot du jury de cette 78e édition de la Mostra. Très beau jury. Le sud-coréen Bong Joon-ho, à qui l'on doit le magistral Parasite. La chinoise Chloé Zhao, réalisatrice de Nomadland, toujours à l'affiche. Et la française Virginie Efira.
La 78e édition de la Mostra de Venise se tiendra du 1er au 11 septembre prochain. On a appris il y a quelques minutes la mort du créateur de la bande dessinée Bob Moran. L'écrivain belge Henri Verne avait 102 ans. Il décrivait son aventurier comme un Zorro sans masque. À une minute de faire sonner le téléphone sur France Inter, il méritait un petit hommage. L'un des pères du Minitel, artisan des télécoms modernes dans le pays, vient de décéder. Gérard Théry avait conçu ce petit cube marron avec son écran gris, lancé en 1980, qui permettait, rappelez-vous Marion, de consulter des pages qui commençaient par 3615, en somme l'ancêtre d'Internet. Le Minitel est peu à peu tombé en désuétude pour s'éteindre définitivement en 2012.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Et vous nous annoncez encore de la pluie, Sébastien Léas.
Oui, la journée de demain s'annonce perturbée sur le nord-ouest. Dès cette nuit, les averses vont débouler par la Bretagne et la Basse-Normandie, gagnant rapidement jusqu'au Pays de la Loire et à la Haute-Normandie. Les averses vont également envahir les Hauts-de-France, la région parisienne, le Poitou-Charentes et la Champagne-Ardenne demain matin, puis jusqu'à la Lorraine et au centre-Val de Loire l'après-midi. Sous les averses les plus actives, des orages pourront éclater. Quelques averses sont aussi attendues sur les Pyrénées et les Alpes du Sud, essentiellement l'après-midi. L'ouest de la Bretagne et le Cotentin verront le ciel s'éclaircir progressivement. L'ouest Provençal, la Côte d'Azur et l'Occitanie bénéficieront d'une journée bien ensoleillée demain. Et puis sur le reste du pays, le ciel sera plus partagé entre nuages et éclaircies. Le tout dans une ambiance toujours fraîche avec des températures qui seront généralement 1 à 3 degrés sous les valeurs de saison. Prévoyez 21 degrés à Orléans et à Caen, 23 degrés pour Paris et Bordeaux, 25 degrés à Mulhouse, mais tout de même 28 degrés à Toulouse, 29 degrés à Grenoble et à Toulon et 30 degrés à Marseille.
Sébastien Léas de Météo France.